Vous écoutez France Culture.
Dime que son los secretos de tu alma. Dime cuál es el camino de tu divino amor.
Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar, réalisée par Clotilde Pivin, préparée par Marie Dalquier avec à la prise de son Jean-Benoît Tétu. Aujourd'hui, nous recevons Anne Baudard pour parler de la sagesse des anciens. Anne Baudard, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Lélie.
Bonjour à tous les deux. Anne Baudard, vous êtes agrégée de philosophie, maître de conférences à Sciences Po Paris sur une chaire de philosophie publique, auteur de nombreux ouvrages dont Socrate et Jésus, Qu'est-ce que la démocratie, Naissance de la philosophie politique, et aujourd'hui vous publiez chez Vrin Qu'est-ce que la sagesse dans la collection Chemin philosophique. Dans votre dernier ouvrage, Qu'est-ce que la sagesse, vous faites un tour d'horizon de l'histoire de la sagesse, vous essayez de la définir, c'est un ouvrage très synthétique et éclairant, et vous montrez, en effet, que de Pythagore à Pierre Hadot, en passant par Platon, Épictète, Rousseau ou Kant, la quête de la sagesse est indissociable du souci de l'âme, de la question de la vérité et de la pratique des vertus, et que toutes ces choses, en réalité, sont indissociables. Autant dire que la sagesse correspond à vos yeux, et aux yeux de ces antiques philosophes, un véritable cheminement spirituel, et qui nous permet non pas de devenir sages, mais de devenir des aspirants à la sagesse. Car la sagesse, nous dites-vous, est toujours à venir, un horizon, un idéal qui anime toute quête, quête qui ne s'achève jamais.
Alors Anne Baudard, comment est née cette quête dans l'histoire, alors je ne vais pas dire l'histoire d'humanité parce que la quête de la sagesse existe aussi en Orient évidemment, mais dans notre histoire, donc en Occident, comment est apparue cette quête de la sagesse? Quels sont les premiers personnages que vous avez pointés qui ont déjà cette ambition de progresser, d'aller vers cet accomplissement?
Dans le livre, j'ai eu le souci justement de montrer un cheminement à la fois historique et méta-historique, c'est-à-dire d'éclairer, vous avez dit, c'est un livre sur la sagesse des anciens. Et ce livre sur la sagesse des anciens commence par Kant, c'est-à-dire par la problématique qui consiste à se demander aujourd'hui, via Kant, c'est-à-dire via hier, le XVIIIe siècle, si la sagesse est toujours d'actualité, car pour les anciens, la sagesse et la quête de sagesse est absolument indissociable, j'allais dire, de leur vie, de leur travail intellectuel, qu'ils soient mathématiciens, qu'ils soient physiciens, qu'il soit astronome, qu'il soit philosophe, type Socrate qui n'écrit pas, type Pythagore qui n'écrit pas, mais qui est un mathématicien et un astronome. Donc vous me demandez de pointer, je vous cite, de pointer une origine. Et une origine, si vous voulez, je la verrais s'il fallait l'instituer, c'est un peu factice, j'en conviens, peut-être au 6e, 7e, 6e siècle de notre ère, c'est-à-dire dans l'Occident, vous m'interrogez sur l'Occident, avec ceux qu'on appelle les sept sages, dont la liste peut varier suivant les auteurs, mais où reviennent toujours les noms de Solon, de Thalès, par exemple, deux noms pérennes, où les historiens, les exégètes de l'Antiquité s'accordent à dire que Solon et Thalès sont effectivement les premiers grands sages de l'Antiquité. L'un est politique, l'un est juriste, nomothète, et l'autre est physicien. Donc il y a un âge, si vous voulez, de la sagesse, c'est vrai, où se mêlent philosophie et science. Où se mêlent philosophie et science de type plutôt mathématique, car la mathématique ouvre à l'invisible, à la rigueur du raisonnement, à la rigueur de la pensée, à l'établissement de la vérité, qui n'est pas la vérité philosophique, mais qui est un type de vérité qui peut y conduire. Et le grand âge, pour moi, c'est vrai que je suis socratique, peut-être de façon très déformée, peut-être de façon obsessionnelle, le grand âge de la sagesse occidentale, c'est effectivement autour de Socrate, qui récupère une tradition antérieure dans la tradition orphico-pythagoricienne.
Mais est-ce que le mot « sagesse » existait déjà avant Socrate? À quel moment il apparaît et quel est son... si on creuse un peu son étymologie, qu'est-ce que ça signifie exactement?
Alors, le mot « sagesse », « sophia », est lié à l'origine, si vous voulez, du mot « philosophia », qui est institué au dire des historiens, je crois, unanimement, qui est référé à Pythagore. Pythagore invente le terme de « philosophia », c'est-à-dire d'amour de la sagesse. Première remarque. Deuxième remarque, ce qu'il faut savoir aussi, en philologie, en linguistique, c'est que la sophia antique n'est pas d'abord la science. La sophia antique, c'est un art, c'est un savoir-faire, c'est le fait d'être un expert, aussi bien dans un instrument de musique que dans une charpente que l'on va construire, etc. Et peu à peu, le mot « sophia » qui dérive d'un adjectif, ce qui est très original dans la langue grecque, qui dérive de « sophos », le mot « sophia » va devenir la science, en tous les sens du mot « science ». Mais on part de l'art, d'une sorte de poésiste, d'une sorte de savoir-faire, de savoir-créer, etc., presque matériel, pour aller de plus en plus vers quelque chose que Leili appelait spirituel ou surtout spirituel. Donc l'origine du mot, elle est très lointaine. Son sens est artisanal, son sens est technique, poétique. La poésie, c'est effectivement le fait de produire quelque chose à l'extérieur de moi-même. Et peu à peu, on est passé de ce mouvement d'extériorité de la sophia à un mouvement d'intériorité de la sophia qui a complètement son acmé avec un Socrate, par exemple, avec le « connais-toi toi-même » qu'il réhabilite, qui n'est pas de lui, qui est de Chilon, de Sparte, mais qu'il réhabilite dans la voie de l'intériorité. Donc ce qui m'a beaucoup intéressé dans l'origine du mot, c'est ce va-et-vient entre l'extérieur et l'intérieur et l'extérieur. Alors, c'est vrai que la sagesse est un art, que la sagesse est une science, que la sagesse est à la fois un art de vivre, un art de penser, un art de parler, et que les anciens ont cette vertu de lier, de ne pas délier le dire, le faire, l'agir, le penser, etc. On n'est pas dans une philosophie des divisions, au moins chez un Pythagore. Pythagore est mathématicien, il entend la musique des sphères, il entend la musique du monde, et en même temps il forme une éthérie, une école, où l'on va pendant 5 ans se taire. Ça nous ferait du bien de revenir à l'école pythagoricienne, à beaucoup d'entre nous, pour peu à peu, si vous voulez, s'exercer à la pratique des vertus.
Est-ce qu'on pourrait peut-être répertorier, parce qu'on est un petit peu une cartographie, quelles sont les grandes écoles de sagesse de l'Antiquité et peut-être un petit peu les typologiser ou voir quels sont les grandes différences?
Oui, ça c'est une question qui prendrait cent fois l'émission,
mais juste qu'on balise très vite, qu'on sache de quoi on parle, oui. Les stoïciens, voilà.
Oui, donc on a, si vous voulez, vous me parlez d'école. Donc on aurait, si vous voulez, je vais être très schématique puisque vous me demandez
oui,
de l'aide.
Oui, il faut en 5 minutes, voilà.
En 5 minutes, oui, du schéma. Mais on aurait l'Antiquité archaïque, l'Antiquité classique, l'Antiquité tardive, type Augustin par exemple, qui incarne aussi un type de sagesse spirituelle via le christianisme. Et vous avez donc, moi je ferai un peu comme fait Sugière là-dessus, une cartographie où vous avez dit, je ne sais plus quel mot vous avez employé, une cartographie historique qui me ferait aller de moins 6 à plus 5, si vous voulez.
Oui, donc 1000 ans quasiment.
Voilà,
ouais.
C'est énorme, un millénaire. Ah, c'est énorme, ouais. Enfin, par rapport à nous qui changeons de philosophie tous les matins, et encore, peut-être dans la matinée, il y en aura 3-4. Donc, c'est vrai que c'est difficile de répondre à votre question en étant précis, à la fois, disons, pas n'importe quoi quand même. Alors, chez Pythagore, on est dans l'âge où la sagesse inclut, c'est vrai, l'exercice intellectuel des mathématiques, par exemple, au sens très large du terme, l'étude des sciences, et la sagesse au sens de, pour parler comme ado, l'art de vivre, l'exercice spirituel, etc. Là, nous sommes, mettons, dans l'âge très antique, voire peut-être archaïque, dans la typologie historienne. Si nous prenons les présocratiques, Ils sont tous maîtres de sagesse. Comme je disais tout à l'heure à propos de Thalès, Thalès est un maître de sagesse. Xénophane, qui est pour moi Xénophane de Colophon, qui est le premier à avoir pensé, enfin chez les Grecs, dans la Grèce occidentale, le monothéisme, à mon avis, ça peut être discuté par beaucoup, en tout cas qui a pensé l'idée d'un dieu unique dans l'âge du polythéisme, était un très grand sage. Bon, Démocrite est un maître de sagesse exceptionnel, c'est le fondateur de l'atomisme. Il a une morale, il est l'auteur d'une morale dont il ne nous reste que des fragments. Vous lisez les fragments de Démocrite, vous êtes absolument médusé par la pertinence de son discours éthique qui est complètement d'actualité. Bon. Donc là, je suis moins 5-4, vous voyez. Vous me parlez du stoïcisme. Le stoïcisme est un courant philosophique qui dure de moins 3 à plus 3, c'est-à-dire 600 ans. Est-ce que vous imaginez une école philosophique qui dure 600 ans ? Bon. L'épicurisme, qui est un courant qui également dure très longtemps, hein, qui est contemporain du stoïcisme. Le cynisme, nous n'avons pas parlé du cynisme, c'est un très grand courant de sagesse qui pratique la dérision, le détachement à la énième puissance, le cosmopolitisme à la énième puissance, etc. Et vous avez effectivement le personnage Socrate, qui incarne un modèle existentiel de sagesse. Et vous avez ensuite les théoriciens de la sagesse, que sont par exemple Platon, Aristote, qui ont légué une œuvre philosophique où, effectivement, la référence à la théorie de la sagesse est quasi constante. Et je citais Augustin pour clore, pour le stoïcisme. Donc, il y a le stoïcisme pré-impérial, bien entendu, et le stoïcisme impérial. Et dans le stoïcisme de l'Empire romain, vous avez des figures comme Sénèque, comme Épictète, comme Marc Aurèle, qui sont, les préférés de Pierre Hadot et de Michel Foucault sur beaucoup de points, pour des tas de raisons, et qui se trouvent, eux, entre le 1er et le 3e siècle, vous voyez, de notre ère.
Et puis on pourrait peut-être rajouter les néoplatoniciens.
Allons-y.
Comme ça, on est presque complet.
Oui, presque complet. Et le néoplatonisme, sur lequel je suis venue parler ici l'an dernier, je crois, par exemple Plotin, 3e siècle, qui est contemporain du christianisme et qui ne le connaît pas, c'est en Égypte, c'est à Alexandrie, et est aussi quelqu'un qui nous lègue une sagesse mystique, à finalité mystique.
C'est intéressant d'arriver jusqu'au néoplatonisme parce que d'une certaine façon, vous avez aussi évoqué le premier inventeur, à vos yeux, en tout cas le premier penseur du monothéisme. Et je voulais vous poser une question sur justement ce que tous ces penseurs, si tant est qu'on puisse trouver une théorie qui les englobe tous, entendent par la question de Dieu. Alors, pardonnez-moi, je pars dans un sujet un peu énorme, mais on a très souvent évoqué ces penseurs ici. Ça m'a beaucoup frappé de voir qu'ils emploient le mot où ils disent les dieux, un dieu, le dieu. Qu'est-ce qu'ils entendent par là, puisqu'on est dans un monde qui est encore polythéiste, sachant que dans le néoplatonisme, on n'est pas dans le christianisme, mais il y a quand même l'un qui apparaît de manière très forte.
Chez Aristote, il y a le premier moteur.
Oui, absolument. Donc, cette idée, est-ce que vous pouvez nous clarifier cela ? Parce que la plupart de nos invités ou ne veulent pas trop répondre à cette question ou ils le rejettent d'un revers de la main parce que ça n'entre pas dans leur conception. Voilà, je ne nommerai personne, mais je crois que tout le monde a compris ce que je voulais dire.
Moi, je ne rejette jamais rien. Par principe, c'est peut-être mon socratisme. J'ai employé un mot lourd tout à l'heure en étant consciente des remous qu'il pouvait créer, le mot monothéisme, à propos de Xénophane de Colophon. Je précise qu'il s'agit d'un monothéisme de type intellectuel, c'est-à-dire où on a l'idée.
Oui, ce n'est pas une révélation.
Non, ça n'a rien à voir avec la révélation biblique ou hindouiste ou de ce type-là du tout. Par la pensée, l'homme chemine, si vous voulez, par degrés, jusqu'à l'idée d'un Dieu, d'un seul, qui transcenderait tous les dieux de la culture polythéiste ambiante. Ce Dieu, je suis chez Xénophane, 30 secondes, si vous me le permettez. Xénophane, donc 6e siècle avant notre ère, 6e, 5e. Dieu ne pense pas comme les humains. Dieu pense mieux, plus que les humains, ne parle pas comme les humains, mais il est au-dessus de tout. Donc, ce que je voudrais dire, en réponse à votre question, Lélie Enva, c'est que les anciens qu'ils soient matérialistes ou non, ont un sens aigu, je crois, de la question de la transcendance. Bon. C'est-à-dire du référent. Quel est le référent ? Oui. Alors, il y a cinq questions dans la question que vous m'avez posée, oui. Je vous signale. Donc, j'essaie de les serrer un peu. Et le sens de la transcendance les amène à ne pas se limiter. Même un Aristote qui n'a rien d'idéaliste au sens platonicien, vous évoquiez la question du premier moteur ou de l'acte pur ou de la pensée de la pensée, va se hisser par la pensée, par la raison, par la rationalité à un principe premier dont tout va dépendre. Donc, les anciens sont des penseurs, la plupart, même Démocrite, d'une certaine transcendance, de quelque chose qui dépasse nos limites. Oui. Ça, c'est une première remarque. Deuxième remarque, dans les questions que vous m'avez posées, je prends l'exemple de Socrate. Socrate pose des problèmes à tous les... D'une part parce qu'il n'a pas écrit, tout le monde a écrit sur lui, mais surtout parce qu'il emploie à la fois en grec le mot « le Dieu », voilà. « Les dieux », puis parfois « Dieu » avec un grand D. Enfin, on traduit ça par un grand D. Avec les articles grecs, je ne peux pas faire du grec à l'antenne, mais c'est vrai que dans la langue, même Ado, Pépin, Festugière, des très grands hellénistes, effectivement, étaient parfois complètement déroutés par ça. De quel Dieu parle-t-on ? Ça a été votre question. Alors, je réponds la ciblée sur Socrate. C'est vrai que Socrate peut parler d'Apollon. Et c'est le Dieu protecteur, effectivement, d'Athènes à cet égard-là, enfin, pas d'Athènes en tant que ville, mais de la philosophie, ou de la beauté, ou de la recherche de la beauté. Et il peut aussi parler des dieux de son époque qui ne l'intéressent pas véritablement, et d'un dieu qui lui parle. Le fameux Daimon qui lui parle. Vous voyez, vous avez tout un triptyque, au moins chez Socrate, devant lequel on est. Chez les stoïciens, je prends les stoïciens tardifs, c'est-à-dire ceux de l'Empire romain, par exemple Marc Aurèle. Le Dieu, c'est le logos du monde. Vous voyez, c'est le logos mondain, entre guillemets, c'est-à-dire le principe qui fait qu'il y a un tout ordonné dont nous ne sommes que des petits fragments de rien du tout. Et Démocrite le dit également. Démocrite a une formule, et ça ne me semble pas un modèle de foi religieuse, Démocrite, hein, très honnêtement. Il a une façon de dire, par exemple, qui est extraordinaire. Qu'est-ce que c'est que la vie d'un homme ? Tu entres, tu vois, puis tu sors. Bon. Mais tu sors où ? Tu rejoins la matière. Tu n'es pas limité à ta petite entité particulière et individuelle. Là est le nerf, à mon sens, d'une réflexion sur la sagesse dite des anciens, comme vous l'avez dit en introduction tout à l'heure. On ne se pense pas dans l'Antiquité comme un, si vous voulez, comme un individu séparé du tout ou d'un premier principe dont nous serions l'expression.
C'est vrai que ce qui m'a frappé dans votre ouvrage, c'est que vous expliquez bien que le mot même de Sophos, ils ne l'appliquaient jamais à eux-mêmes. Et pour eux, il n'y a qu'un Dieu qui puisse mériter justement, peut-être une sorte de sagesse transcendante qui serait le modèle inatteignable par les petites entités que nous sommes.
Le Dieu, pas un Dieu. Mmh. Le Dieu, le divin.
Donc, il est aussi le détenteur et l'inspiration de la sagesse éternelle, d'une certaine façon.
Oui, oui. On peut complètement dire les choses ainsi. Alors, vous avez évoqué en dernier lieu Plotin, vous avez évoqué l'un, par exemple, qui est le premier principe de tout, dont nous sommes des émanations, dont nous procédons, et nous ne sommes pas un, nous sommes un multiple. Vous voyez ? Donc, vous reliez chez les anciens toujours quelque chose comme... c'est le platonisme, là, c'est le néo-platonisme. Un mouvement de montée et un mouvement de descente. L'homme monte par la pensée jusqu'à ce premier principe divin, l'un, dont il sait qu'il est le pur... Sans division, celui dont on ne peut rien dire, parce que dès qu'on en parle, on dit des choses de lui et on le divise. Donc, il y a quelque chose comme un ineffable. Ici, ça, c'est un vrai problème philosophique. Et en même temps, de cet un, nous participons. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est que nous sommes des émanations de l'un. Donc, le divin est constant. Alors, j'en termine 30 secondes. Philosophos, le philosophe, est celui, effectivement, vous l'avez dit, qui aspire à la sagesse et qui toute sa vie et toute sa mort aspirera à cette sagesse-là. La mort de Socrate est l'illustration de cela. Est-ce que c'est la mort d'un sage presque, parce qu'effectivement, il rejoint, il pense rejoindre effectivement le tout dont il est sorti.
Oui, il y a une chose qui est frappante dans les dialogues de Platon qui parlent de la mort de Socrate, où certains de ses disciples lui disent « mais tu devrais t'enfuir », etc. Et Socrate dit « non, je veux que mon âme, par la noblesse de cet acte, où j'accepte cette décision, rejoigne les âmes nobles, finalement, dans l'au-delà ». Donc on voit qu'il y a vraiment une croyance là qui est religieuse, on pourrait dire, oui, qu'il existe un autre monde dans lequel son âme va se réjouir avec celle des sages.
Oui, comme il dit, qu'est-ce que je suis content de mourir si je vais pouvoir parler à Homère, je vais pouvoir parler à Hésiode, si ce qu'on dit est vrai.
Oui, il y a toujours ce doute. C'est vrai.
Ça, c'est l'ironie socratique, c'est le détachement socratique. Ouais. Mais
il n'est pas dogmatique.
Ouais. À quoi bon me plaindre ?
Voilà. Et l'autre point sur la question de la mort de Socrate, qui me renvoie à ce que vous avez dit tout à l'heure, et je voulais juste vous poser une petite question dessus, c'est qu'il dit « je me suis représenté les lois venant à moi ». Vraiment, les lois deviennent les lois de la cité comme des personnifications, des existants qui ont une autonomie et une profondeur, enfin très importante pour Socrate. Et vous avez dit, un des premiers sages, c'était Solon, qui est d'ailleurs le fondateur aussi des lois dans le monde grec. Donc, et là, on voit se rejoindre non plus la question métaphysique à la question de la sagesse, mais véritablement cette question de la loi, qui est liée à la question éthique, si je ne m'abuse.
À la question éthique, à la question juridique et à la question politique. C'est-à-dire que vous m'amenez à montrer, d'une autre manière que ce que je disais tout à l'heure, que rien n'est séparé chez les anciens, rien n'est séparé, que ce que vous appeliez vie spirituelle, par exemple, dont ils seraient les porte-paroles ou les exemples ou les paradigmes, cette vie spirituelle est incarnée dans la cité. Et Solon est un très bel exemple, parce que c'est le fondateur de l'eunomia, c'est-à-dire du bon ordre, de l'ordre juste de la cité. Il voit donc le juste. Et il essaie, dans ses lois, les premières lois qui vont préparer l'âge de la démocratie athénienne, il essaie en effet de réaliser, entre guillemets, la justice, qui est une forme de sagesse. Donc, le nomothète, Solon est un politique, un archonte, et il fait les lois, mais pas à partir de son vouloir personnel. On a une référence à un modèle d'ordre juste que l'on va essayer d'instituer. C'est vrai de Solon, c'est vrai de Clisthène, et ce sera vrai de Périclès. Et là, ce sera la chute de la démocratie, parce que sans doute, il y aura des défauts qu'on n'avait pas prévus.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel. Nous sommes en compagnie d'Anne Baudard. Nous parlons de la sagesse des anciens. Et je rappelle votre petit livre qui vient de sortir, Qu'est-ce que la sagesse ? Chez Evrin. Alors Anne Baudard, on vient de parler de Socrate, de la mort de Socrate, de l'exemplarité de sa vie, de sa mort, qui en fait, pour les anciens en tout cas, une figure presque accompli ou accompli du sage. Alors vous avez un petit chapitre dans votre livre sur Socrate et Jésus. Vous avez d'ailleurs écrit un livre sur Socrate et Jésus, sujet qui nous rassemble. Vous faites la distinction entre la sagesse et la sainteté. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, parce que c'est extrêmement intéressant comme sujet, parce que finalement, ils ont beaucoup de points communs. On voit très bien dans cette acceptation de la fin. Et en même temps, il y a des différences fondamentales. Ce serait important de souligner ces deux points.
C'est vrai que je commence le livre par Kant et je l'ouvre par une réflexion sur la définition kantienne, donc nous sommes au XVIIIe siècle, de la sagesse. Et il se trouve que Kant compare sagesse et sainteté, les dit ceci, puis se rend compte que peut-être les deux termes sont, à certains égards, superposables. Donc là, premier point de réponse, une réponse d'histoire de la philosophie via Kant. Superposable pourquoi ? Parce que le sage a un idéal de vertu qu'il va tout mettre en œuvre pour l'exercer, et le saint est un prototype aux yeux de Kant, le saint de l'Évangile, qui n'est jamais nommé comme Jésus. Le saint de l'Évangile est un exemple d'incarnation historique de la sagesse comme perfection morale. Donc la réflexion kantienne nous amène à superposer, voire confondre. Il le dit lui-même, j'ai mis un extrait de Kant où il dit « sagesse et sainteté, finalement c'est la même chose ». Pour ma part, il y a une autre voie au XVIIIe siècle qui est celle de Rousseau. Pour Rousseau, le sage et le saint ne seront jamais possiblement confondus. À confondre ou confondus, ce n'est pas possible. Et Rousseau s'insurge contre ceux dont je suis, dont vous êtes, qui ont osé comparer Socrate, le sage, entre guillemets, ou celui qui l'a le mieux incarné ou le plus incarné, et Jésus, qui chez Kant est le saint de l'Évangile. Rousseau dit dans les Mille, c'est un très beau texte, comment ose-t-on comparer l'humain et le non-humain, ou le pas seulement humain, puisque Jésus est homme, mais il est Dieu. Pour ma part, troisième réponse à votre question, je pense que dans les deux directions, la direction humaine de la sagesse, qui peut être uniquement humaine, c'est-à-dire sans référence à une révélation religieuse ou à une communion religieuse de quelque ordre qu'elle soit, et la sainteté, qui pour moi est plus connotée religieuse, il y a effectivement des passerelles qui permettent de les comparer. Je ne suis pas rousseauiste sur ce point, je serais plutôt effectivement du côté de Kant. On peut comparer, je l'ai fait dans un livre, Socrate et Jésus comme maîtres de sagesse, une sagesse humaine.
Maître de vie, oui.
Maître de vie, maître, exemplarité vertueuse, exemple, enfin, bon, modèle d'imitation pour certains, etc. On peut les comparer. Au nom de quoi ne pourrait-on pas les comparer, si vous voulez ? C'est pas parce que l'un est homme et l'autre Dieu.
Oui, mais là, on rentre dans la foi. C'est-à-dire, pour dire Jésus est Dieu, c'est déjà,
voilà,
c'est déjà un regard qui adhère à une révélation.
Tout à fait.
D'un point de vue extérieur, on peut lire l'Évangile sans forcément adhérer à cette révélation.
Bien sûr. Tout à fait. Je suis tout à fait.
Mais on peut peut-être même les comparer, même si on adhère à la révélation. Parce que, non ? Est-ce que c'est pas possible de penser qu'il y a aussi que la révélation n'est pas arrivée une seule fois ?
Voilà.
Si la révélation est là pour guider les hommes vers quelque chose
qui
les dépasse eux-mêmes, qui les transforme eux-mêmes, comment c'est possible de dire que ça n'est arrivé qu'une seule fois ? Même si cette révélation-là a un statut particulier, mais est-ce qu'on peut pas se dire qu'après tout, c'est cette même révélation qui se fait de tout temps ?
Ça, c'est les visages multiples. Vous parlez effectivement de quelque chose qui aurait une multiplicité de visages en Orient et en Occident, j'en suis absolument convaincue. Par ailleurs, c'est vrai qu'il faut quand même garder à l'esprit toujours, même si je suis assez pour les analogies. C'est plutôt une analogie que je fais entre Socrate et Jésus, c'est-à-dire une identité de rapport plutôt qu'une identité de nature. Je ne tombe pas non plus dans le travers de dire ils sont les mêmes, c'est complètement idiot. Mais il faut se souvenir quand même toujours que Jésus fonde une religion. que Socrate n'en fonde pas une.
Ça se discute hein, sur le
ça
fait
pourrait
que
Jésus... discuter, oui.
Parce qu'il enfin, a vraiment que... voulu fonder.
Moi, je
qu'il
pense
a
que
voulu...
Jésus n'a pas fondé de religion. C'est plutôt Paul qui a séparé les païens convertis à Jésus, à la foi de Jésus, des juifs, et qui a du coup créé une nouvelle religion en dehors du judaïsme. Mais je crois que Jésus, il est né juif, il est mort juif, il n'a jamais voulu fonder quelque chose en dehors du judaïsme, même s'il a réformé en profondeur.
L'histoire en a fait. Hein.
Oui, voilà. l'histoire en a fait un
fondateur. Vous avez raison. Jamais on n'a fait de Socrate. C'est plus mon périmètre,
bien
vous en conviendrez.
Fondateur d'une
nouvelle religion. On n'a jamais fait de Socrate un fondateur de religion.
Pour revenir à Jésus-Socrate, parce qu'on n'a pas été au cœur, qu'est-ce qui, pour vous, sont les points communs les plus fondamentaux entre ces deux personnages qui fait qu'on peut justement les comparer? Et là, dans la pratique, vous voyez, dans la sagesse de vie.
Les critères de la sagesse pour moi, c'est-à-dire quels sont les critères de la sagesse? La liberté intérieure, n'être assujetti à rien ni à personne. Vous allez me dire, Jésus, il parle au nom de Dieu, certes, mais il ne me semble pas un être aliéné ou assujetti à une idéologie quelconque, Socrate non plus. Ils sont tous les deux libres, avec une liberté intérieure qui est pour moi un des critères de la sagesse. Ils ont tous les deux une grandeur d'âme que l'histoire a remarquée, quelles que soient les lectures qu'on fait du personnage Jésus, pour ou contre, peu m'importe. Et ils ont laissé une empreinte dans l'histoire, si vous voulez, jusqu'à en faire des pivots d'une datation, d'une espèce de datation historique. Socrate est vraiment un point focal dans l'histoire de la philosophie, les pré-socratiques, ce qui est une absurdité, parce que Démocrite est un contemporain d'eux, mais on dit pré-socratique. Donc on dit pré-socratique, on dit post-socratique. Et toute la philosophie, jusqu'à Augustin compris, est post-socratique. Les sceptiques sont des post-socratiques, etc. Jésus est une matrice, enfin un pivot, aussi d'une datation, d'une ère, si vous voulez, qui sera, que l'on pourra dire, l'ère chrétienne, via Paul, vous avez raison. Là, ce n'est pas trop mes spécialités, ça, moi, je dois dire. C'est un point commun entre deux, c'est-à-dire ils ont laissé une marque dans l'histoire des hommes qui est une marque absolument un signe, c'est-à-dire comparable à aucune autre marque. Bon. Par ailleurs, ils n'ont ni écrit ni l'un ni l'autre. Ils n'ont pas laissé de message écrit. Moi, naïvement, quand je me suis intéressée à Socrate, je me suis dit « enfin, je pourrais être libre de penser ». Et je me suis aperçue que tout le monde avait écrit sur Socrate et que c'était terrible de parler de Socrate puisqu'il me fallait lire tout le monde. Jusqu'à Merleau-Ponty, jusqu'à etc. Bon, tout le monde a parlé de Socrate d'une certaine façon. Jésus a une postérité d'exégèse énorme, pour ou contre, peu m'importe. Vous voyez, ça c'est aussi des points communs.
Bon. Et puis il vivait dehors. Gens qui marchaient, qui étaient tout le temps dans la rue, qui marchaient.
Qui déambulaient. Effectivement, c'est des péripatéticiens avant l'heure, avant Aristote. Mais ils déambulaient et surtout ils ne se prenaient pas au sérieux ni l'un ni l'autre, je crois. Je crois qu'il y a, il y a quelque chose de ça. Alors, c'est peut-être pas la même. Enfin, il n'y a pas d'ironie chez Jésus, je ne le pense pas, et encore.
Il y a une petite ironie christique.
On le voit avec Nicodème, par exemple. Oui. Il se moque un peu de lui. Lorsqu'il parle avec les pharisiens, parfois, il fait de l'ironie.
C'est juste.
Il y a de l'ironie. Alors, on va peut-être un petit peu parler des exercices spirituels, parce que c'est une chose qui est très importante, qu'on connaît peu, dont Pierre Hadot a merveilleusement bien parlé, et vous en parlez aussi. Donnez-nous un peu des exemples de ce qu'on sait des exercices qui étaient pratiqués, par exemple, dans les écoles épicuriennes, ou dans les écoles stoïciennes, qu'est-ce que les disciples faisaient comme pratique, puisqu'on est dans un cadre qui n'est pas religieux, mais qui est un cadre philosophique, quel type de pratique spirituelle on faisait?
Écoutez, il y en a une qui existe déjà chez Pythagore et qui me frappe beaucoup et qu'on devrait plus que vulgariser ou diffuser, c'est l'exercice de l'attention. On apprenait aux disciples, je pense à Pythagore et à ses disciples, à faire attention. C'est très difficile de faire attention, de se concentrer sur un point, etc. J'ai parlé tout à l'heure, ça paraissait anecdotique, mais ça ne l'était pas. On apprenait dans les écoles à ne pas parler pour ne rien dire. On chassait, on pourchassait le dire vain et vide. Bon. D'où l'exhortation du silence dans la secte pythagoricienne. On a oublié quelque chose que je précise. Pythagore appartient au courant ésotérique, où la philosophie est réservée à des initiés, qu'ils soient hommes ou femmes. On n'est pas sexiste à l'époque de Pythagore. Bon. Ensuite, la philosophie va devenir beaucoup plus exotérique, C'est vrai, ça, c'est une différence. Les points communs, donc je vois l'exercice de l'attention, l'exercice du langage, la concentration intellectuelle, faire des mathématiques comme antichambre à la philosophie, c'est-à-dire pratiquer les sciences, ça se voit dans la République de Platon, dans le cheminement que le disciple doit faire, 35 ans d'exercice, dont 5 de dialectique et 30 avant, qui sont tout sauf la philosophie. Bon. Si bien qu'on ne peut chez Platon être philosophe qu'à 50 ans. C'est-à-dire philosophe, c'est-à-dire gouverner l'État dans la République. Donc il faut être drôlement savant, drôlement sage, drôlement vertueux pour accéder au pouvoir. Il ne faut pas y être trop longtemps parce que le pouvoir corrompt, nous dit Platon. 5 ans, c'est bien trop. Voilà ce qu'on apprenait dans les écoles. Donc on apprenait les sciences, on apprenait les arts du corps. Je reviens à Pythagore, qui est très intéressant là-dessus, qui est pour le végétarisme. On ne mange pas n'importe quoi. On ne se comporte pas de n'importe quelle manière, on a un rapport à son corps, on ne l'habille pas de n'importe quelle manière, on ne s'habillait qu'en lin, avec du lin blanc, dans la secte pythagoricienne, par exemple. C'est des exemples qui peuvent paraître complètement superficiels, mais qui ne le sont pas. Donc ça, c'est effectivement dans le...
En fait, ça relève d'une forme d'ascèse qu'on retrouvera après dans l'exercice. Le monachisme ou dans les confréries soufis. Il y a énormément de ressemblances. Oui. L'idée, c'est quand même de dominer les passions charnelles par un travail ascétique, si j'ai bien compris.
Ça, je crois. C'est... L'ascèse, en grec, c'est l'askésis, c'est l'exercice.
Voilà, mais c'est ce que j'allais dire. Parce que l'ascèse, telle qu'elle est comprise par les Grecs, est quand même un peu différente de l'ascèse chrétienne qui va tomber dans un extrême. C'est-à-dire que là, c'est l'exercice spirituel dans lequel on modère effectivement les passions, on est dans une certaine retenue, une certaine sobriété, on le voit très bien dans l'épicurisme, mais c'est pas non plus l'ascèse extrême qu'on a pu connaître dans le christianisme, dans lequel on va aller jusqu'à ne presque plus manger, se flageller, etc. Il y a quand même un respect du corps. Oui, mais ça, c'est présent.
Oui, bien sûr.
Je pense qu'il y a une autre... Enfin, la conception de l'ascèse chez les Grecs n'est pas la même que l'ascèse chrétienne, chez les pères du désert, etc., où on sent qu'il y a presque, des fois, un mépris du corps. Il n'y a pas un mépris du corps chez les Grecs.
Alors, Pierre, là, on doit... Je vais me référer à Pierre Hadot là-dessus. Pierre Hadot, et par son itinéraire personnel d'ailleurs, est très marqué par ce que vous appelez l'ascèse chrétienne, et marqué personnellement et marqué intellectuellement. L'ascèse chrétienne n'est pas toujours mortifiante. Il y a des ascèses chrétiennes plus douces ou plus rudes, suivant les courants. Il y a un moine qui a intéressé Pierre Hadot, c'est le moine Antoine, qui demandait à ses disciples, là on est dans le cadre du christianisme et de l'exercice spirituel chrétien, avant Ignace de Loyola, et qui demandait à ses disciples de noter toutes leurs pensées, pour après les serrer, pour après voir ce qui pouvait être gardé, ce qui n'était pas bon de garder, coupable de garder, etc. Et ça a beaucoup marqué Pierre Hadot, parce qu'il s'est dit, en effet, on faisait ça aussi, chez les Grecs. Donc là, c'est une analogie, je dis bien une analogie, une identité de rapport possible entre une ascèse chrétienne et une ascèse de type hellénique. Bon. Les excès sont haïs par les Grecs. Vous savez pourquoi?
La vertu, c'est le juste milieu.
C'est le juste milieu.
Entre deux excès.
C'est le juste milieu entre deux extrêmes, qui est un point de perfection vers lequel on tend, qu'on n'arrive jamais à atteindre tellement c'est difficile. L'épicurisme est la plus grande théorie du juste milieu dans le plaisir, s'arrêter à temps dans le plaisir. Donc les Grecs sont effectivement du côté de la critique de l'hubris, tous les courants.
De la démesure, oui.
De la démesure, effectivement. La critique de la démesure. Bon, Medenagan, rien de trop. Voilà. Dans le christianisme, vous avez des courants qui sont très hellénisés aussi. Et vous avez des courants qui ont oublié, effectivement, leur hellénisme. Je prends par exemple Marc Aurèle. Pourquoi Marc Aurèle persécute-t-il les chrétiens au IIe siècle? Pourquoi? Tout simplement, il n'a rien contre eux, il s'en fiche complètement, il est même indifférent à... Il est empereur. Mais il ne comprend pas comment ces gens vont à la mort en chantant, en faisant trop par exemple, et ils rendent leur mort tragique. Et Marc Aurèle déteste le faste tragique parce que ça sort de la mesure. Et que ça va petit à petit risquer de déstabiliser l'État romain, ce courant-là, donc persécution. Vous voyez ? Donc il est grec. Vous voyez ? Et le christianisme lui apparaît des mesures. Il faut redonner la norme de la mesure.
Alors, je voudrais saisir l'occasion pour revenir à notre époque et d'essayer de voir comment ces exercices spirituels, cette forme d'ascèse dont vous avez parlé, et qui est quand même le socle d'une quête de la sagesse, parce que c'est impossible d'être dans la sagesse uniquement par de la théorie et faire la philosophie purement théorique, comment aujourd'hui ça peut être appliqué? Parce que je me rends compte que très souvent, on s'en réfère de plus en plus, ce qu'on appelle les nouveaux philosophes se réfèrent à cette sagesse antique, mais je ne suis pas sûre que ce soit véritablement dans une quête de sagesse comprise dans sa totalité.
Ni comprise dans sa totalité, ni comprise dans ses parties, bien souvent, je dirais. Je suis assez dure là-dessus. D'ailleurs, l'expression « nouveau philosophe » a un côté ridicule par elle-même, car qu'est-ce que ça veut dire d'être nouveau philosophe? Et qui invente véritablement quelque chose d'absolument nouveau en philosophie?
Non, mais au-delà de l'expression, la sagesse revient.
Il y a une revivissance
de la sagesse antique. C'est indéniable et c'est pas un effet simplement de mode.
Ah non, du tout. C'est pas ça que je voulais dire. Je veux dire, il y a une revivissance, donc un retour à, ou au moins on exhume du passé quand même très lointain, effectivement, un type de vie qui nous séduit précisément parce que nous ne sommes plus dans cette culture-là. Et que nous sommes dans une culture, et ça c'est le débat sur lequel je me suis centrée, moi, le débat Adot-Foucault, où Foucault, avant de mourir, téléphone à Adot, mais vraiment quelques semaines avant sa mort, pour savoir s'il a bien traduit les premiers vers de la première lettre à Lucilius, le « vindicate tibi », soit la propriété de toi-même. Et il a l'aval de Adot en latin, enfin dans le latin français, et Foucault est rassuré ou apaisé à cet égard-là. Leur conception de la sagesse est opposée. La sagesse dont parle Adot est la sagesse antique, avec tous les critères que j'ai évoqués tout à l'heure, Foucault ne parle jamais de sagesse, mais d'esthétique. Donc, prend dans la sagesse antique, en la revisitant à sa philosophie, un art de vivre, une jouissance de vivre tout à fait actuelle. Donc, Foucault est un individualiste, entre guillemets. Enfin, j'exagère en disant ça, puisqu'il a le souci des autres, il a écrit de très belles choses sur le souci des autres. Les Grecs ne sont pas individualistes, c'est ça la différence. Mais nous en crevons, pardonnez-moi la vulgarité de mon expression, de cet individualisme. Donc nous avons besoin de retrouver une sagesse qui est ouverte au monde, au divin, quelle que soit sa nature, aux autres, etc. D'où la fascination de nos contemporains. Pour, effectivement, une antiquité qui est modernisée aujourd'hui par eux.
Alors, on va clore cette émission par un entretien très bref que nous avons eu avec Jacques Lipigeau, un grand spécialiste d'Épicure et des Épicuriens, et qui nous a brossé un portrait d'Épicure, un des plus grands sages de l'Antiquité, qui était d'ailleurs vénéré par ses contemporains et considéré sans doute comme aussi, à l'instar de Socrate, comme un sage réalisé.
C'est quelqu'un, certainement, d'une sensibilité extraordinaire. C'est aussi quelqu'un qui se pose comme quelqu'un d'admirable. Vous savez que les épicuriens doivent, les jours des icades, c'est-à-dire le 20e jour de la lune, prier dans leur chambre face au portrait d'Épicure. Donc, vous voyez que c'est un homme qui accepte et qui recherche la grandeur, qui est quelqu'un qui se fait un nom et qui crée quelque chose qui était nouveau, par exemple le jardin, c'est-à-dire un lieu qui est à la fois de la ville et de la campagne, où l'on reçoit et où on discute dans une amitié, dans une familiarité continuelle.
Est-ce qu'on peut dire qu'il crée une sorte de communauté spirituelle?
Ah oui, certainement. Je vous permets de lire ça, parce que c'est joliment écrit, par René Corpuètre. Épicure, dans sa seule demeure, une toute petite maison, quelle troupe d'amis il a réuni, dans quelle harmonie d'une affection partagée. Cette tradition est toujours vivante chez les épicuriens. Tous les sexes, ça aussi c'était nouveau.
Donc il y avait des femmes qui participaient
Tous les âges. toutes les conditions étaient admises à philosopher de concert, ce qu'on a appelé en grec la sum philosophein, le fait de se grouper pour philosopher. Beaucoup de femmes à qui Épicure n'a pas hésité à confier les rênes pendant son absence. C'est quelqu'un qui est, si on peut dire, original.
Qu'est-ce que l'éthique d'Épicure ? Comment on pourrait la définir ?
L'éthique. Ah, d'abord, le respect des autres, ça c'est sûr. Ouais. L'accueil des autres. Et puis aussi, il est mourant pendant des années. Il reçoit chez lui et il réfléchit devant ses amis, devant ses disciples. Il réfléchit sur la mort, qui est évidemment la chose importante pour lui. Il faudra penser la mort et le plaisir.
Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que ce n'était pas du tout un débauché, ce n'était pas quelqu'un qui était dans la luxure.
Non.
Le plaisir a chez lui un autre sens.
Oui, parce que le plaisir, il n'est plus plaisir quand il dépasse la limite. Quelque chose qui est très important dans Épicure, c'est la notion de limite. Pour être bref, si vous voulez, comment ça se fait que ça s'arrête ?
Jacques Pigeot a écrit une très très belle introduction à la Pléiade consacrée aux épicuriens. Donc il a fait cette introduction générale, il a aussi traduit Lucrèce et donné une introduction à ce poète. Et véritablement, dans cette introduction, il explique de manière magistrale les enjeux de l'épicurisme et l'importance de la pensée d'Épicure dans l'histoire de la philosophie et aussi de la sagesse.
Et donc nous revenons pour clore cette émission avec vous, Anne Baudard, donc avec votre très bel ouvrage sur qu'est-ce que la sagesse. Nous allons peut-être clore avec le stoïcisme dont on peut parler. Et il y a un autre sage qui a beaucoup marqué l'Antiquité, qui est Épictète. Épicure a profondément marqué les Grecs d'Athènes. Épictète a profondément marqué Rome. Peut-être Lélie Anvar.
Oui, absolument. En réalité, dans ce livre, vous expliquez de manière pédagogique, mais quand même très dense, ce que c'est que la sagesse. Il y a deux textes qui sont cités. Un auquel vous avez fait référence tout à l'heure, qui est un texte de Ado dans son dialogue avec Foucault. Et puis un autre, qui est un texte d'Épictète, que vous commentez. Donc à chaque fois, vous commentez ces textes assez longuement. Et donc je vais lire ce texte que j'ai trouvé absolument saisissant, que je ne connaissais pas d'Épictète, et qui s'adresse, je pense, aussi à nous, directement. Ainsi, observez-vous vous-même dans vos actions et vous découvrirez la secte à laquelle vous appartenez. Pour la plupart, vous découvrirez que vous êtes épicurien, pour quelques-uns péripatéticiens et même des péripatéticiens à relâcher. Car votre conduite témoigne-t-elle que vous considérez la vertu comme égale ou même supérieure à tous les autres biens ? Mais montrez-moi un stoïcien, si vous en avez un. Où est-il ? Comment est-il ? Les formules stoïciennes, oui, y sont des milliers à les répéter. Répètent-ils moins bien les formules épicuriennes ? Ne connaissent-ils pas avec la même précision les péripatéticiens ? Qui donc est stoïcien ? Comme nous appelons statue de l'école de Phidias une statue sculptée selon la technique de Phidias, montrez-moi donc quelqu'un qui soit formé selon les dogmes qu'il affirme en parole. Montrez-le-moi malade et heureux, en danger et heureux, exilé et heureux. Méprisé et heureux. Allons, montrez. Par tous les dieux, je veux voir un stoïcien. Mais vous n'avez à me montrer personne qui soit entièrement formé. Montrez-moi du moins quelqu'un qui se forme, qui ait du penchant pour le stoïcisme. Soyez bon pour moi. Ne refusez pas à un vieillard un spectacle qu'il n'a jamais vu jusqu'ici. que l'un d'entre vous me montre l'âme d'un homme qui ait la volonté d'être d'accord avec Dieu, de ne faire reproche ni à Dieu ni aux hommes, de toujours réussir, de ne pas tomber sur des obstacles, de n'avoir ni colère ni jalousie, en un mot, qui désire d'homme devenir Dieu, qui dans ce corps de mort songe à s'unir à Zeus. Allons montrer, mais vous n'avez personne. Pourquoi jouez-vous de vous-même et trichez-vous avec les autres? Pourquoi vous promenez-vous revêtus des habits d'un autre, en voleur et en pillard de mots et d'idées qui ne vous concernent en rien? Anne Bodard.
C'est un texte tout à fait saisissant, vous avez raison. Et qui nous interpelle aujourd'hui et qui interpellera demain sans aucun doute. Et qui est dit par un maître d'école, l'école stoïcienne. Et c'est vrai que Épictète, dans ce. Il n'a pas écrit Épictète, n'est-ce pas? Il n'a pas écrit, donc c'est un de ses disciples qui écrit, qui retranscrit son discours, son dire verbal. Il admoneste ses disciples. Parce que précisément, il trouve que ses disciples ne se conduisent pas comme ils devraient se conduire, selon les dogmes de l'école, notamment la maîtrise de soi, l'endurance par rapport, quand il s'agit de combattre contre les passions, un certain nombre de passions, etc. Et Arien, son disciple, écrit ce texte pour mieux montrer aux disciples stoïciens que le dire doit être un faire dans l'ordre de la sagesse. On peut se dire sage, on peut se parer de tous les atouts extérieurs et simplement dit, proclamé, et ne l'être pas. Donc il y a une dénonciation des apparences, c'est du platonisme, une dénonciation des apparences et un recentrage vers l'essentiel, qui est finalement invisible, mais tellement invisible là qu'aucun disciple ne peut se dire véritablement stoïcien, c'est-à-dire mourant et heureux, exilé et heureux, etc., etc. Donc c'est un texte qui réveille à une fonction protreptique ici, une fonction d'exhortation à devenir stoïcien. L'est-on jamais ?
Ou à le devenir enfin.
Enfin.
Merci beaucoup Anne Bodard. Donc je rappelle votre livre « Qu'est-ce que la sagesse ?» aux éditions Vrin. Et je vous souhaite une très belle journée.
Merci beaucoup.
C'était « Les racines du ciel », une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvard. La semaine prochaine, nous recevrons l'exploratrice Priscilla Telmont pour parler de l'exploration du monde et de l'exploration de soi. Je rappelle que cette émission est podcastable pendant un an et réécoutable pendant 1000 jours. Excellent dimanche à tous.